matin,
la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre bulle d'optimisme. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent. Et ensemble, on écoute le monde changer. Une heure pour écouter des parcours de vie d'entrepreneurs. La France bouge sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. C'est le leader mondial du pneu. Bah oui, on est leader mondial en quelque chose quand même. Comment Michelin vit la reprise? Comment allons-nous nous déplacer demain? Mais est-ce qu'ils vont finalement continuer à fabriquer vraiment des pneus demain? Florent Ménégaud, président du groupe Michelin, est notre témoin exceptionnel jusqu'à 14h.
À la une, la voiture électrique prend de plus en plus d'importance. Comment transformer une voiture thermique en une voiture électrique pour des petits trajets? Transition One le fait, c'est la start-up, on la découvre d'ici quelques minutes.
Michelin, c'est le seul groupe du CAC 40 à avoir son siège social en région, en l'occurrence à Clermont-Ferrand. Et grâce à eux, l'aéroport de Clermont-Ferrand a encore une vraie activité. Et cet aéroport, ce sera notre 5 à du jour vers 13h30.
Vous recherchez une voiture électrique? Laquelle prend? Quelle autonomie? BEV, c'est peut-être la solution. BEV, c'est B2EV. C'est le projet des trophées de l'avenir. La France bouge, rendez-vous à 13h45 pour découvrir le pitch.
Et puis on est mercredi, donc demain un emploi. On a 1000 postes aujourd'hui à pourvoir. Où ça? Bah vous commencez à en avoir l'habitude, vous attendez la fin de l'émission vers 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge, c'est parti. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et bien sûr sur Europe 1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
C'est l'un de nos plus gros fleurons industriels en France. À quoi Michelin ressemblera demain? On en parle jusqu'à 14h.
Bonjour Florent Ménégaud.
Bonjour Madame Assayag.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du groupe Michelin, groupe créé en 1889, leader mondial du pneu. Tout le monde connaît Michelin, ça c'est simple. Tout le monde connaît Michelin. 124 000 salariés, près de 200 millions de pneus par an vendus dans le monde. Florent Ménégaud, la reprise est très forte. La mobilité reprend. Est-ce que vous le constatez aussi chez vous?
Oui, tout à fait. Le besoin de mobilité a été vraiment mis en avant au moment où la moitié du monde, il faut se rappeler en avril 2020, a été confinée. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que beaucoup de choses s'arrêtent quand les gens ne peuvent plus se déplacer. Et avoir accès au travail, aux loisirs, à ses amis, à sa famille, c'est vraiment un droit fondamental des personnes. Et donc, le mouvement, la mobilité, c'est vraiment au cœur de notre activité. Et puis, la reprise économique, elle est là. Elle se passe avec, beaucoup de défis. Et notamment, il faut réorganiser toute la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est assez complexe en ce moment.
Eh bien tiens, venons peut-être directement sur ce point des approvisionnements. Vous avez besoin, par exemple, de caoutchouc pour faire vos pneus. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous faire livrer normalement?
Alors, on trouve du caoutchouc. Mais on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des bateaux, des containers pour le transporter. Et puis d'avoir des bateaux qui s'arrêtent au port où on a besoin qu'ils s'arrêtent. Et puis de pouvoir les débarquer. Et ensuite de trouver des camions qui vont emmener ces containers à leur lieu de consommation, c'est-à-dire nos usines de production.
Mais quand vous dites que vous avez du mal, c'est-à-dire que vos usines potentiellement ne tournent pas à 100% à cause de ce manque de matières premières?
Exactement. Le marché demanderait à ce que nos usines tournent à quasiment 100%. Et aujourd'hui, elles tournent aux environs de 80-85% parce qu'on a beaucoup de mal à recruter et aussi à acheminer les produits pour les faire tourner.
Beaucoup disent, Florent Ménégaud, que l'on va acheter moins de voitures parce qu'on va davantage mutualiser nos voitures. Hein. Dans le même temps, vous préparez aussi des pneus, hein, vous êtes en train de fabriquer des pneus qui vont durer de plus en plus longtemps, hein, des pneus increvables. Vous allez donc en vendre de moins en moins, les pneus?
Alors, en fait, depuis l'origine de Michelin, on cherche toujours à améliorer nos pneumatiques pour les rendre plus performants, qu'ils durent plus longtemps, qu'ils consomment moins de carburant, qu'ils consomment moins d'énergie, qu'ils soient plus amusants à conduire. Donc, on cherche en permanence à trouver mieux. Et donc, oui, on est toujours en train d'inventer le pneu de demain qui durera plus longtemps.
Mais il va exister ce pneu increvable? Réellement?
On est en train de le développer. On aura probablement une première version sur les voitures commercialisées à l'horizon 2025.
Mais ça veut dire quoi, un pneu increvable? C'est-à-dire que véritablement, quoi qu'on fasse avec, il n'y aura jamais de problème?
C'est-à-dire que quand un clou rentrera dans le pneu ou quand une vis rentrera dans le pneu, ben il ne perdra pas d'air parce qu'en fait, il n'en a pas pour tenir. Et donc, aujourd'hui, on utilise des supports qui permettent au pneu de se passer d'air. Et donc, comme il n'a pas d'air, ben, il ne peut pas crever.
Mais dans tout ça, il y a, on voit hein, le développement des voitures électriques. Hein, on va en parler avec la start-up tout à l'heure. Est-ce qu'avec l'essor de l'achat des voitures électriques, est-ce que ça va changer la consommation du pneu ? On va l'utiliser différemment, notre pneu ?
Oui, alors le pneumatique, oui, est plus sollicité sur un véhicule électrique, encore plus sur un véhicule hybride.
Ah bon ?
En gros, un véhicule électrique va consommer 20 à 30% de pneumatique supplémentaire.
Pourquoi ?
Par contre, si vous les mettez en Michelin...
Mais pourquoi ?
Oui.
Parce que le véhicule électrique a plus de couple. Il utilise le couple
aussi. De quoi ?
De couple, c'est-à-dire... Le couple, c'est ce qui vous permet de passer d'une vitesse zéro à une certaine vitesse.
D'accord.
Donc, c'est ce qui vous entraîne. Et lorsque vous levez la pédale de l'accélérateur, c'est l'inertie qui joue, c'est-à-dire une masse qui est lancée à une certaine vitesse, met du temps à ralentir. Sauf que l'inertie, là, dans un véhicule électrique, elle est réutilisée pour recharger la batterie. Donc vous êtes constamment en train soit d'accélérer, soit de freiner. Donc sous couple, ça sollicite beaucoup le pneu. Le véhicule électrique, il est plus lourd. Pour faire la même autonomie de kilomètres, vous avez plus de poids parce qu'il faut embarquer les batteries pour stocker l'énergie nécessaire pour vous emmener.
C'est pour ça que vous dites que c'est une aubaine électrique pour Michelin, parce que vous allez vendre de plus en plus de pneus grâce à cela.
Alors disons que Michelin...
Tu pourras les changer malgré tout, même s'ils sont
incroyables.
Mais incroyable, ça veut dire qu'il ne faut pas les changer. Hein.
Oui, exactement, mais c'est-à-dire qu'ils vont continuer à s'user, même si on travaille dessus. Les pneumatiques, ça fait des années que Michelin travaille sur ces questions-là. L'électrification du parc automobile, ça fait plus de 25 ans que Michelin travaille sur ça. Nous pensons depuis de nombreuses années que l'électrification du parc, c'est le moyen de réconcilier plus de mobilité avec beaucoup moins d'impact.
Mais on change souvent de pneus de voiture. Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'on achète sa voiture... On n'est pas là à changer son pneu,
moi,
ses pneus tous les 10 ans.
Mon père n'arrête pas de me dire, oh là là, je suis arrivé à 60 000 km, il faut que je change mes pneus.
Et oui. Alors, enfin, la manière dont vous conduisez, le type de véhicule que vous allez utiliser, l'agressivité ou non que vous avez au volant.
Quoi, tous les 3-4 ans, il faut changer ses pneus ?
En fait, ça dépend, c'est plutôt des kilomètres.
C'est en
kilomètres. Et en fait, si vous êtes en ville et vous passez votre temps à tourner le volant, en fait, ben, au bout d'un moment, le pneu, il s'use.
Mais la question d'Elisabeth, c'est la plus importante, parce que quand on dit que vous êtes leader mondial du pneu, vous êtes surtout leader mondial des pneus qui durent le plus longtemps. Parce que souvent, quand on compare le prix d'un pneu, on oublie de comparer combien de temps on va les garder. Et vous, ce que vous vendez aujourd'hui, c'est plus un nombre de kilomètres qu'un nombre de pneus, finalement.
Exactement. En fait, nous, on est les moins chers à l'usage. Quand vous utilisez un pneu Michelin, vous investissez un petit peu plus au début, mais ils vont durer beaucoup plus longtemps et vont aussi vous permettre d'économiser du carburant ou de gagner en autonomie de batterie si vous le mettez sur un véhicule électrique.
Mais donc, pourquoi vous ne le comparez pas plus ça ? Parce que quand on va acheter nos pneus, on ne nous le dit pas au démarrage. Et puis tout ce qu'on en est, on est avant tout sensible au prix. Et c'est normal parce que ça coûte quand même un bras de changer ces quatre pneus. Surtout que maintenant, il faut les changer deux par deux pour vous faire plaisir. Mine de rien,
non,
ça coûte très cher.
Alors oui, ce n'est pas pour nous faire plaisir,
non,
c'est pour
votre
sécurité.
C'est pour un équilibrage
de la voiture. Voilà. Mon père m'a appris ça.
Mais
merci à nos papas.
Oui, mais en fait, le pneumatique, c'est un composant essentiel de la sécurité de vos véhicules.
Un point important, parce que tout à l'heure, on disait manque de matières premières, tout ça, on ne peut pas faire tourner les usines. Vous avez déjà fait passer des hausses de prix, justement pour vos pneus, il y a de cela quelques mois. Il va falloir recommencer, là.
En fait, on a passé, du fait de la hausse du cours des matières premières, mais surtout de la hausse des frais de la logistique, c'est-à-dire du transport.
De l'approvisionnement.
Derrière, oui, on n'a pas de moyens de faire les économies nécessaires pour compenser ces hausses-là.
Donc oui, vous allez continuer.
On a passé des hausses de prix, et si c'est les hausses de nos coûts continuent d'augmenter, on sera obligé de les répercuter dans le prix de vente.
Les hausses de coûts de vos matières premières continuent, donc vous allez le faire. C'est même plus ainsi, là.
Alors, on a déjà passé les hausses pour les coûts qui sont déjà arrivés. Si les coûts continuaient à monter, on serait amené, bien sûr, à de nouveau hausser nos prix.
Mais vous nous avez annoncé, Florent Ménégaud, un pneu increvable d'ici 2025. Vous êtes le président du groupe Michelin et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, on parle voiture une fois de plus aujourd'hui avec notamment nos pneus. Bah oui, c'est très important avec le leader mondial parce qu'on est comme ça à la France bouge. Et le leader mondial, c'est bien évidemment le groupe Michelin et son président est avec nous aujourd'hui, Florent Ménégaud.
Alors, on parlait des voitures électriques tout à l'heure, des voitures électriques aussi, hein, qui nécessitent on doit changer plus souvent ses pneus. Hein, c'est ce qu'on a appris avec Florent Ménégaud. Quand on a une voiture électrique, elles connaissent de plus en plus de succès. Elles restent pourtant chères, difficiles d'accès. L'équipe de la France bouge a trouvé la start-up qui transforme transforme les voitures thermiques en voitures électriques. Bonjour Aymeric Libaud.
Oui, bonjour.
Vous êtes le fondateur de Transition One, une entreprise qui existe depuis 3 ans. Mmh. Et vous convertissez des petites voitures thermiques en voitures électriques.
Oui.
Vous êtes un magicien.
C'est un peu ça. Mmh. C'est un peu ça, mais c'est tellement simple à
Sérieux
faire. Que...
C'est vrai, c'est simple.
Oui, c'est très simple. En fait, on participe à amener une solution face au dérèglement climatique. Il y a 40 millions de véhicules en France aujourd'hui. On ne va pas attendre 20 ans qu'ils soient tous devenus électriques. Donc, il faut travailler sur l'existant.
Comment ça marche concrètement? Je vais prendre mon exemple. Je suis un mauvais conducteur, j'ai une Toyota Yaris diesel.
Ah ouais,
je vous l'amène,
vous cochez toutes les cases,
on fait comment pour la transformer en électrique et ça me coûte combien?
Alors, pour la commande va se faire sur Internet. Vous allez choisir votre modèle. Il n'y a pas encore la Yaris, mais tous les modèles sont éligibles. Nous, on fait des Twingo, des Fiat 500, des Kangoo, des véhicules légers. Vous arrivez chez le partenaire qui est à proximité de chez vous. Ça, c'est un point important. On ne va pas emmener la voiture à l'autre bout de la France pour la convertir. En 4 heures, on va la transformer en une voiture électrique à 100%. Donc vous êtes un particulier, mais ça marche aussi pour ceux qui sont des collectivités locales, des flottes d'entreprises, des administrations.
Et j'ai combien d'autonomie avec ce que vous me mettez dans le coffre?
Nous, la cible, c'est d'avoir une autonomie suffisante à une utilisation quotidienne.
Ce qui veut
Donc
dire...
on a choisi 100 km.
D'accord.
Ces voitures
mais
légères.
Mais 100 vrais kilomètres, c'est-à-dire si je mets la clim, si je mets le chauffage, si je...
Alors moi, je fais 140 km avec nos voitures.
D'accord.
Donc oui, 100 km. Et on communiquera sur la valeur officielle quand elle sera homologuée.
C'est fait exprès, les petites voitures?
Oui.
Pourquoi?
Voiture légère, utilisation quotidienne, peu d'autonomie nécessaire au quotidien, et donc moins de batterie. Et au final, pour répondre à la question sur le prix, c'est 5000 euros après les aides et les primes pour arriver à que sa voiture soit rétrofitée.
Et les gens commencent à le faire parce que pareil, il y a une barrière psychologique à passer de transformer sa voiture.
Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt sur le rétrofit. Nous, il y a 10 000 expressions qui ont été faites sur plein de modèles différents. À peu près 2 000 sur les voitures que nous, on a prévu de faire. Il y a beaucoup d'intérêt de particuliers, de collectivités aussi, parce qu'elles sont un peu contraintes aujourd'hui. Hein. Il y a des incitations avec la loi LOM et la loi Climat Résilience, avec les ZFE qui vont arriver. Là, sur le Grand Paris, hein, c'est 5,2 millions de personnes qui, dans 2 ans, pourront plus utiliser le diesel sur Paris. Il va falloir d'autres solutions.
Alors, vous avez choisi des petites voitures, mais par exemple, voilà, on décide de changer sa voiture thermique avec un moteur électrique. Si on a un souci, on se retourne vers vous?
On va avoir nos partenaires, notre réseau de partenaires qui va être au travers de la France.
C'est qui, par exemple?
Des professionnels automobiles, des garagistes, des carrossiers qui se disent... On a besoin d'une nouvelle activité parce qu'on va perdre de l'activité avec la voiture électrique.
Ah, donc eux aussi sont en reconversion?
Oui.
En transformation.
L'installation d'unités de rétrofit, c'est une reconversion, une nouvelle activité pour les professionnels de l'automobile. Et ça va porter sur le rétrofit. Il y aura toujours à aller changer les pneus, là on les changeait, à changer les plaquettes de frein, etc.
Florent Ménégaud, je rappelle que vous êtes le président du groupe Michelin, on ne sait pas toujours, mais vous avez une marque aussi de garagiste d'une certaine manière, puisque vous avez Euromaster, qui doit aussi se réinventer, puisque avec l'avènement des voitures électriques, on va beaucoup moins chez le garagiste, puisqu'on a beaucoup moins de pièces à changer dans une voiture électrique. C'est un marché qui pourrait être intéressant, comme ça, de transformer les voitures thermiques en voitures électriques, vous y croyez?
Alors, nous, notre métier, ce n'est pas d'aider à la transformation des véhicules. Par contre, d'aider à la maintenance des véhicules qui auront été transformés, ça, oui, bien sûr, on est tout à fait partant pour le faire. Alors, Euromaster ne fait pas des opérations de maintenance moteur et de choses comme ça. On ne fait que des opérations de maintenance légère. C'est les plaquettes de frein, les vidanges et les pneumatiques.
Donc, c'est un business finalement, le rétrofit. C'est quelque chose qui va aller en grandissant. C'est une nouvelle activité. Là, vous êtes sur les petites voitures, petit à petit. Vous allez toucher toutes les voitures?
Alors aujourd'hui, on s'est donné un objectif de faire 100 000 voitures sur 5 ans, sur ces modèles légers, sur l'Europe, parce qu'on va retrouver les mêmes voitures. Après, on a un autre chiffre qui est un peu plus loin, mais c'est comme on va viser les étoiles, peut-être qu'on arrivera sur la Lune. Comment on va pouvoir convertir 10 millions de véhicules avant 2035? Donc c'est un vrai challenge industriel et le rétrofit n'aura d'intérêt que sur un challenge industriel parce que la transition écologique ne réussira qu'avec des solutions industrielles.
Et vous, Aymeric Libaud, vous ne parlez pas de nombre de voitures transformées mais de CO2 économisé.
Oui.
Notre
premier indicateur d'entreprise, c'est la quantité de CO2 économisé et on s'est donné un objectif de 1 million de tonnes de CO2 équivalent économisé en 10 ans. Et donc, quel équipementier, quel constructeur nous accompagnera, nous aidera à pouvoir atteindre cet objectif?
Florent Ménégo, je rappelle que vous êtes le président du groupe Michelin. Depuis le début de l'émission, on parle de pneus, on parle là de transition de voiture thermique en voiture écologique, en voiture électrique. Vous, l'avenir aussi de Michelin, c'est l'informatique, les données connectées, puisque vos pneus, ils vous donnent plein d'informations sur nous. Et c'est comme ça que finalement, vous comptez gagner votre vie demain, en gagnant de l'argent là-dessus, en nous faisant payer tout cela, sur tous les services afférents?
Alors, il y a énormément de savoir-faire sur lesquels Michelin peut apporter beaucoup de valeur. Alors, nous discutions juste avant d'être à l'antenne ensemble avec
sur le petit canapé
Thibault,
en face
voilà,
du studio.
Et on parlait de Transition One. Et en fait, nous sommes ensemble pour essayer de voir comment on va aider cette entreprise à industrialiser ses savoir-faire. Et le passage à grande échelle, ça ne s'invente pas. Nous avons une filiale spécialisée qui aide à construire les machines et à mettre en place tous les processus nécessaires pour industrialiser, pour passer à grande échelle. Et donc, on est en discussion sur plusieurs forums avec Transition One. Ça, c'est un de nos métiers.
Il y en a d'autres.
Bien sûr, Michelin sera encore très présent dans le pneu. Mais on est présent beaucoup dans de services autour du pneu grâce à la connaissance des usages, grâce à la connaissance des informations données par nos pneus et sur l'usage des véhicules. Et ensuite, nous serons présents aussi au-delà du pneu parce que nos savoir-faire, notre maîtrise des matériaux nous permet de développer des choses qui vont être utiles dans la médecine, dans l'aérospatiale.
D'où vient tout ce que vous faites qui peut être utile pour la médecine, pour ce que vous venez de dire, pour la santé, pour tout ça?
Ce que nous savons faire, c'est mettre ensemble des matériaux pour obtenir des fonctions qui paraissent incompatibles. Nous, notre métier, c'est de rendre possible ce qui paraît impossible. Et nous, on fait ça à travers les matériaux.
Aymeric Libaud, vous êtes le fondateur de Transition One, une entreprise donc qui a à peine 3 ans. Qui sont vos clients? Vous en avez beaucoup, là, aujourd'hui?
Alors, nos clients nous attendent parce qu'il faut qu'on obtienne une homologation par modèle. Aujourd'hui, notre frein, c'est...
Pour ma Toyota Yaris.
Voilà. Et en fait, les Toyota sont dans la liste.
Mais il faut attendre l'homologation qui est un peu longue.
Et il faut surtout attendre d'arriver à lever des fonds pour financer les homologations, financer les tests de ces homologations.
Et vous êtes en cours de levée de fonds en ce moment?
Oui, tout à fait. Okay. Nous, on cherche à lever 8 millions. Et c'est le gros enjeu pour pouvoir s'industrialiser et agir face à l'urgence climatique.
C'est ce que l'on vous souhaite en tout cas, Aymeric Libaud. Vous êtes le fondateur de Transition One. Merci d'être venu dans La France Bouge.
Merci à vous.
Et Florent Ménégo, le patron du groupe Michelin, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on parle aujourd'hui du pneu, on découvre effectivement toutes les coulisses de Michelin avec son président Florent Ménégo qui est notre invité exceptionnel dans La France Bouge en direct chaque jour sur Europe 1 de 13h à 14h. Alors juste avant de s'interrompre, on a vu que vous allez continuer à faire du pneu, mais sûrement de moins en moins, en tout cas ça représentera de moins en moins de chiffre d'affaires dans les années à venir. Vous nous l'avez dit, vous développez dans le médical, les composites flexibles. On croit aussi de plus en plus dans votre secteur large là de l'automobile à l'hydrogène. Ça fait un bout de temps que chez Michelin on y croit. Qu'est-ce que vous faites concrètement et à quoi ça va servir demain l'hydrogène?
Alors, en fait, depuis 20 ans, nous savons et nous travaillons autour de technologies qui vont permettre de se substituer aux énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gasoil qu'on utilise aujourd'hui pour se mouvoir, pour voir quelle serait l'énergie alternative. L'électricité est certainement une énergie indispensable pour la mobilité de demain. On a regardé comment on fabriquait l'autonomie nécessaire quand vous partez en vacances, si vous voulez faire 500, 600 km avec votre véhicule. Aujourd'hui, c'est difficile de le faire avec un véhicule électrique dont l'autonomie est dans les batteries. Et donc l'hydrogène, c'est une manière de stocker l'électricité. Et après, vous la fabriquez dans le véhicule avec une pile à hydrogène et vous l'utilisez pour faire l'autonomie. Donc Michelin travaille depuis maintenant une vingtaine d'années sur le développement de piles à hydrogène. Nous en sommes à la 4e génération et nous construisons en ce moment même une usine dernière génération qui va fabriquer en grande série industrielle des piles à hydrogène.
Mais quand est-ce que ça va venir dans nos voitures à Elisabeth et à moi?
Alors il y a déjà des premiers prototypes qui roulent aujourd'hui avec nos
mais
piles à hydrogène.
Mais vraiment en grande masse quoi.
Et l'usine sort de terre dans la région de Lyon, à Saint-Fons dans la région de Lyon dans les mois qui viennent. Et d'ici 2023, vous aurez des milliers de véhicules disponibles avec nos piles à hydrogène.
Alors Florent Ménégaud, vous nous dites qu'il y a une usine qui est en cours de construction, va pouvoir rouler avec des piles à hydrogène d'ici 2023. Donc vous, vous faites partie de ceux qui croient fortement en la croissance des véhicules roulants, quand d'autres, face à vous, disent qu'ils parient complètement sur la fin de la voiture. Où est le... On place où le curseur ?
Nous sommes convaincus que le parc automobile va doubler. Alors bien sûr, pas partout, pas de la même manière. Mais quand on est bien sûr à Paris, là la densité de population est telle que l'espace disponible pour la quantité de population fait que chacun utilise son véhicule particulier dans cet espace urbain, ça devient très difficile. Par contre, il y a des tas d'endroits dans lesquels la densité de population est beaucoup moins forte.
Oui, mais donc, là, on pense aux pays émergents, notamment.
Alors, les pays émergents,
mais
c'est
est-ce qu'ils vont acheter du Michelin, ces gens-là ? Puisqu'aujourd'hui, en Chine, on fait des très bons pneus, largement moins chers que les vôtres.
Oui, alors, quand vous dites très bons pneus, ça, c'est une différence d'appréciation.
La qualité s'est en tout cas fortement améliorée par rapport à ne serait-ce qu'il y a quelques années.
Mais si vous essayez un Michelin par rapport à ce type de pneus-là, vous verrez une énorme différence. Et Michelin, d'ailleurs, en Chine, est la marque la plus connue dans le domaine du pneumatique. Et nous sommes aussi connus en Chine qu'en France.
Vous êtes aussi très très investi sur la performance énergétique. Hein. Vous visez 40% de composants durables d'ici 2030, 100% d'ici 2050. Ça signifie quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers tout cela ?
Derrière, il faut rendre compatible le développement de la mobilité, le développement du nombre de personnes dans le monde. Hein. La population humaine continue à croître. Il faut croire en la technologie et dire que l'impact de l'activité humaine, chaque activité humaine a un impact, elle peut être maîtrisée grâce à la technologie et nous on développe les technologies qui vont montrer que tout ça c'est possible. On peut rendre possible la croissance de l'humanité, la croissance de la mobilité en réduisant fortement l'impact de manière à ce qu'on puisse tous vivre.
De façon à ce qu'on puisse tous vivre. Vous nous disiez, on est en train de construire là une usine pour l'hydrogène à côté de Lyon. Malgré tout, Michelin a fermé des usines ces dernières années en France. On a eu Jouy-les-Tours, on a eu plus récemment La Roche-sur-Yon. Est-ce que vous allez fermer, est-ce que vous allez devoir fermer, parce que vous êtes en train de vous réinventer, d'autres usines historiques de Michelin ?
L'entreprise, je dis toujours, l'entreprise est un organisme vivant qui s'adapte en permanence à son environnement. Michelin aujourd'hui est différent de Michelin il y a 130 ans, au moment de sa création. On a énormément évolué. Et donc, au moment où, effectivement, il y a des endroits où nous sommes amenés à fermer des activités, au même moment, nous investissons massivement pour ouvrir des nouvelles activités.
C'est une façon polie de me dire, je ne peux pas vous dire que je ne fermerai pas d'usine historique de Michelin, c'est ça ?
Je ne dis jamais ça, parce qu'en réalité, ça serait un contresens d'affirmer ça, alors qu'en réalité, le monde économique est tel que... C'est impossible de faire ce type de promesse-là. Par contre, notre ambition, et moi en tant qu'entrepreneur, j'ai aucune envie de fermer des usines. Nous, notre métier, c'est de nous développer, de croître, d'offrir des capacités de développement à plein de gens.
Et vous pourriez rapatrier des productions, parce que là, depuis la crise sanitaire, depuis 2 ans, on entend de plus en plus parler, il faut relocaliser, il faut reproduire le plus possible chez nous. Est-ce que c'est le cas chez Michelin ?
Bien, écoutez... Une chose qu'on utilise beaucoup en ce moment sont les masques. Eh bien, Michelin, nous fabriquons nos propres masques. Et nous les vendons, d'ailleurs. Et ça se fabrique à Clermont-Ferrand. Nous avons des unités de fabrication additive métallique. Eh bien, ces unités-là, elles sont faites à Clermont-Ferrand, proche de nos unités de recherche. Nous avons regroupé à Clermont-Ferrand la plupart de notre recherche avancée dans le monde. À Clermont-Ferrand, nous avons plusieurs milliers de chercheurs qui, tous les jours, inventent la mobilité de demain.
On a un auditeur là, qui nous suit sur Twitter en ce moment, dénommé Fabrice, qui nous dit « Mais vous mentez quand vous dites que Michelin, c'est le leader mondial du pneu. C'est Lego, le leader mondial du pneu. » Et je vous en ai parlé, pour être très honnête, pendant la publicité, vous m'avez dit « Mais on travaille avec eux. »
Oui, on travaille avec eux parce que derrière, nous avons le même enjeu, c'est de savoir les petites briquettes qu'on utilise chez Lego ou les petits pneumatiques qui sont en fait pas vraiment du caoutchouc, mais plutôt des plastiques. Comment on fait pour faire ça à base de produits recyclés ou comment faire en sorte que ces briquettes soient recyclées à l'infini ? Eh bien, Michelin, nous travaillons avec des entreprises qui développent ces technologies-là parce que nous en avons besoin et Lego en a besoin.
Mais c'est donc, un gros client du coup, Lego ?
C'est pas un gros client, mais c'est un partenaire intéressant en matière de recherche parce qu'ils sont très pointus dans leur domaine et nous sommes pointus dans notre domaine. Et quand on se parle, on arrive à faire avancer des choses très intéressantes.
Chaque jour dans la France Bouche, Florent Ménégaud, nous découvrons une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations, ils sont toujours là. Aujourd'hui, on va découvrir un aéroport qui a été initié par les frères Michelin. Nous sommes en 1916, au moment des balbutiements de l'aviation.
Alors bien évidemment, direction Clermont-Ferrand, ville que vous connaissez bien puisque vous y vivez avec votre famille, Florent Ménégaud. Et cet aéroport, il est tout simplement indispensable pour qu'un groupe du CAC 40 puisse continuer comme vous à avoir votre siège sur place. Et c'est notre avionneur en chef, Quentin Payet, qui nous y emmène.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Le vol AF480 pour Clermont-Ferrand, embarquement immédiat, hall 2, porte B.
L'aéroport de Clermont-Ferrand n'est pas le plus grand aéroport de France. Au classement du nombre de passagers qu'il accueille chaque année, il se situe à la 31e place. Et pourtant, il est d'une importance capitale. Situé à l'est de la ville auvergnate, l'aéroport est créé par les frères Michelin en 1916 pour une raison particulière. Sabine Granger, présidente de la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne.
L'histoire de Clermont-Ferrand, c'est une histoire assez incroyable, en fait, très liée à l'entreprise Michelin. Parce que pour ses besoins industriels, pour la construction en fait des avions Breguet, ils avaient besoin de tester leurs avions. En 1916, les frères Michelin ont décidé de construire une piste en ciment de 400 mètres de long, qui est la première piste en dur en fait au monde.
1916, c'est le tout début de l'aviation et cet aéroport, ou plutôt cette piste en plein milieu de l'Auvergne, est une idée de génie de la part des frères Michelin et une nécessité pour l'entreprise. Au démarrage donc que du fret, du transport de marchandises, mais l'essor de l'aviation civile fait vite s'ouvrir l'aéroport de Clermont-Ferrand aux vols touristiques et d'affaires.
En 1929, c'est l'ouverture de la première liaison commerciale, Genève, Lyon, Clermont-Bordeaux. Et puis après, dans les années 2000, en fait, il accueille le hub de la compagnie Regional Airlines et devient une plateforme de correspondance qui confère à Clermont-Ferrand en fait, une position centrale en France et en Europe.
Économiquement, l'aéroport est un atout pour la région. Il désenclave le territoire et il accompagne et profite à des entreprises comme Michelin, évidemment, mais aussi l'Imagrin, coopérative agricole, ou encore la Société des eaux de Volvic. Le fret représente 10% de l'activité commerciale de l'infrastructure. Aujourd'hui exploité par Vinci Airports, l'aéroport ne cesse de grandir et de se moderniser.
En 2016, en fait, Vinci Airports a réalisé un terminal à fer en fait, en investissant 1 million d'euros pour créer un terminal à fer de 550 mètres carrés de superficie, ce qui permet le développement en fait, de l'activité aviation d'affaires à Clermont-Ferrand et répondre aux besoins en fait, de ce type de grandes entreprises. Et puis également, en 2021, c'est le premier aéroport en France, Clermont-Ferrand, à mettre à disposition des biocarburants sous l'impulsion de Michelin Air Service et de Vinci Airports. Donc il y a un partenariat fort en fait entre Vinci Airports et Michelin au sein de l'aéroport de Clermont-Ferrand.
En 2019, 430 000 passagers sont passés par l'aéroport de Clermont-Ferrand et chiffres qui montrent l'importance des voyages d'affaires. La moitié d'entre eux étaient des passagers de vol en provenance ou à destination de Paris.
Et on y est vraiment là dans cet aéroport de Clermont-Ferrand grâce à Quentin Payet de l'équipe de la France Bouche. Florent Ménégaud, je rappelle que vous êtes le président du groupe Michelin. Vous avez, c'est vrai, une compagnie aérienne à vous, des avions Michelin qui volent pour vous sur cette piste également ?
Oui, tout à fait. Nous avons 5 avions dans le monde. Nous avons une compagnie aérienne qui s'appelle Michelin Air Service, MAS.
Mais elle sert à quoi ?
Et parce que derrière, nos usines, nous avons plus de 70 usines dans le monde. Et pour amener les personnes dans ces coins qui sont souvent assez reculés par rapport à des aéroports, eh bien, c'est plus pratique de le faire avec nos propres avions.
Ah ouais, bah, super.
C'est formidable.
On apprend des choses ici.
Florent Ménégaud va vous demander si vous voulez bien de coacher maintenant et d'accompagner un entrepreneur qui se lance. Vous êtes prêt ?
Très bien.
C'est parti. Vous êtes le président du groupe Michelin et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on parle pneus aujourd'hui avec Florent Ménégaud, le président.
On apprend plein de choses sur le pneu.
On
découvre
tout, même le fait qu'il travaille avec Lego, vous imaginez. Tout ça grâce à Florent Ménégaud, le président du groupe Michelin. Et c'est parti pour notre trophée de l'avenir Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Et puis, bien évidemment, on va retrouver dans un instant aussi Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie, pour tous ses conseils.
Et un projet d'entreprise lancé il y a 2 ans. Bonjour Solal Botbol.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Vous
bonjour.
Êtes le cofondateur de BEEV. Alors BEEV, ça s'écrit B-E-E-V. Vous avez 30 ans et vous le surnommez comme le one shot, je vous cite, hein,
One stop shot,
du véhicule électrique. Vous êtes ingénieur, vous avez un beau parcours, ingénieur, vous avez fait HEC, mais votre passion, c'est l'automobile. BYV, c'est une plateforme qui accompagne le client de A à Z hein, dans son achat de voiture électrique. Pourquoi BYV ? Eh bien, vous allez tout nous raconter. Une minute pour votre pitch. C'est parti.
Merci pour la parole. Alors effectivement, BYV, ça a été créé il y a 2 ans et on accompagne le client dans tout son parcours d'achat de A à Z. Aujourd'hui, le véhicule thermique est un nouveau produit sur le marché qui est quand même bien méconnu du grand public parce qu'on parle d'autonomie, de kilowattheure, de recharge, de type 2, de combo CCS, etc. Et en fait, ça crée quand même beaucoup d'inertie dans le parcours d'achat aujourd'hui parce qu'un client lambda qui souhaiterait passer à la voiture électrique parce qu'il a vu une pub à la télé, en fait, opérationnellement, quand il souhaite y passer, il se rend compte qu'il y a beaucoup de complexité de quel est le véhicule qui est adapté à mon besoin, quel est le financement quel est le financement sur le véhicule que je souhaite qui est adapté, est-ce que je vais aller en LOA, en location, en achat, quelles sont les aides auxquelles je suis éligible, parce qu'on entend aussi énormément parler, et quels sont mes avantages à l'usage. Vous avez dit tout à l'heure que le véhicule électrique, c'est cher, c'est onéreux. Ce qu'il faut regarder, et encore une fois, c'est de mettre dans son contexte, un peu comme vous l'avez fait avec Michelin, de regarder en fait dans le temps, au final, quel est le coût de revient de ce véhicule-là. Du coup, nous, on propose des offres de véhicules électriques multimarques, des solutions d'installation de bornes de recharge, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, et on les accompagne à bénéficier de tous les avantages auxquels ils sont éligibles.
Et vous pouvez vous rémunérer en prenant une prix de vente ou une partie du prix de vente et de location, et vous dites que vous êtes moins cher que les concessionnaires.
Voilà, exactement, parce qu'en fait, le stock, on le source auprès de nos partenaires, qui sont les concessionnaires ou les loueurs, et du coup, ce qui nous permet aussi de benchmarker et de proposer la meilleure offre au client final, parce qu'au final, c'est ce qui compte aussi, c'est qu'il y a une réalité économique derrière et qu'il faut passer à l'électrique au meilleur prix.
Et puis, vous avez déjà des demandes, hein. Je crois que vous avez près de 500 demandes par mois déjà.
Oui, exactement. Le véhicule électrique, je pense que vous l'avez vu, ça avait démarré timidement en 2019 avec 2% de parts de marché. Là, on atteint les 10% de parts de marché, donc il y a aussi une évolution.
Et si on rajoute les hybrides, c'est même aujourd'hui des voitures qui sont plus vendues que les voitures diesel en France.
Solal, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Solal, bonjour Emmanuel.
Alors, bonjour Nathalie.
Nathalie, vous avez étudié chaque chose, chaque petit coin de BYV. Quelles sont les forces et les faiblesses?
Alors c'est vrai que c'est pas facile de choisir vu la profusion d'offres qu'on a aujourd'hui. Le bon point, c'est les fiches des voitures. Elles sont claires, elles mettent en avant vraiment les éléments les plus importants pour choisir sa voiture. Après, on peut évidemment avoir plus d'infos. Puis bravo pour les conseils, ce rendez-vous individuel que vous proposez, notamment pour la recherche des aides financières, parce qu'effectivement, ça a un coût. Alors, quelques points améliorés, enfin plutôt pas des points améliorés, une suggestion. En fait, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous vous adressez à ceux qui ont décidé d'acheter une voiture électrique et qui ont besoin d'aide en fait, pour concrétiser l'achat. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont encore en phase de réflexion. J'achète ou j'achète pas une voiture électrique? Donc peut-être que vous pourriez vous adresser à eux, car vous serez plus visible. En fait, plus vous êtes en amont du cycle d'achat, donc qui commence à la réflexion, plus vous avez de chances que l'achat se fasse chez vous. Donc vous pourriez peut-être compléter votre offre avec un diagnostic, mais qui serait plus poussé, qui nous aiderait aussi à prendre des décisions. Par exemple, vous nous interrogez sur l'autonomie qu'on veut. Mais en fait, moi, j'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que toutes les semaines, je vais chez Carrefour, je vais là. Je ne sais pas moi s'il me faut 100 bornes ou 200 bornes. Et puis si j'ai une maison où je peux recharger tous les jours, ce n'est pas pareil que si je suis dans un immeuble où je vais sur la place de la mairie pour recharger. Mmh. On partage, voilà. Donc ça, il faut prendre en considération pour évaluer notre besoin. Dans le diagnostic, vous pourriez aussi prendre en compte notre besoin de mobilité en fait, au global. Parce qu'on a peut-être déjà une voiture essence ou autre, une moto, une trottinette. Est-ce qu'on garde tout ça ou pas? C'est quoi le coût?
Vous voulez un accompagnement global au-delà des électriques?
Plus global.
Vous voulez qu'on vous conseille sur le aussi si on garde ou pas la trottinette?
Mais parce qu'en fait, finalement, c'est un coût global qu'on va prendre en compte. Un coût global et un impact aussi global écologique. Parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette deuxième voiture? Est-ce qu'on la garde ou pas? Et puis à la fin, du coup, avec ce premier accompagnement, vous nous proposez une sélection de 3 voitures qui est pour finaliser notre choix. Évidemment, il faut prendre rendez-vous avec vous pour aller plus loin. Et puis pour le référencement naturel, n'oubliez pas de coupler ça avec des articles de décryptage. Parce qu'il faut comprendre quand même les bornes qui se rechargent vite, pas vite, moyennement vite. Et comme ça, effectivement, comme l'a dit Elisabeth, vous prenez l'internaute par la main depuis la phase de réflexion jusqu'à la phase d'achat et on peut plus se passer de vous.
Solal, qu'est-ce que vous répondez? Que répondez-vous à Nathalie Carré?
Je pense que Nathalie...
de ne plus se passer de vous, c'est ça en fait.
Ouais, non, mais c'est clair. Je pense qu'il y a des très très bonnes remarques. Merci Nathalie en tout cas d'avoir passé du temps sur notre sujet. Là où elle a effectivement raison, et d'ailleurs c'est des choses que l'on implémente, Nathalie est aussi devin, parce qu'il y a une nouvelle version du site qui va sortir.
Mais c'est ça, c'est une fée.
Si vous ne lui donnez pas les infos avant, juste pour pouvoir dire « tiens, on a la solution !»
Ah, on ne pourra pas le dire en direct. mais c'est le besoin qui est indispensable, et c'est vrai que même les personnes en besoin en autonomie, elles ne savent pas forcément.
Florent Ménégaud, je rappelle que vous êtes le patron du groupe Michelin, ça doit vous parler tout ça, parce que vous qui travaillez, comme on le disait tout à l'heure, sur tous les services afférents à la vente de pneus, ça va totalement dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous en pensez comme chef d'entreprise ?
Eh bien, écoutez, moi d'abord, je suis toujours enthousiaste de voir des jeunes qui se lancent comme ça avec des idées et qui essayent de les concrétiser et de trouver des marchés. Donc ça, c'est formidable. Et puis, sur ce champ électrique, on est tout à fait d'accord. Alors là, en fait, il y a une plateforme avec BIV qui s'adresse aux particuliers. Nous, on développe des services auprès des flottes sur ces mêmes questions. Parce que les flottes se posent les mêmes questions en disant à quel moment je dois basculer ma flotte, quelle flotte, quel type de véhicule, à quel moment je dois le faire, quel va être mon coût de transition, etc. Donc ces problématiques-là, donc nous avons nous développé, à travers une offre de service qui s'appelle Watea, l'équivalent de ce que fait BIV pour le véhicule particulier. Donc, on ne peut qu'en encourager.
Vous allez pouvoir travailler ensemble, vous allez pouvoir être complémentaires.
Je pense qu'ils vont échanger les cartes en sortant.
Je pense, parce qu'on intervient aussi sur le professionnel également, et même mettre quelle est l'infrastructure de recherche que je mets en place.
Exactement.
Elle est indispensable.
Et alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est le futur. Le futur, c'est dans les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est simplement collaborer. Arrêter de faire des divisions entre le public, le privé, entre les petits et les grands. Michelin, avant d'être grand, il a été tout petit. Et donc, nous,
et on a besoin d'être tout petit pour continuer.
Et on a besoin d'être petit pour être innovant,
pour
etc.
Se faire bouger un peu.
Exactement. Donc en fait, il faut complètement sortir de ces barrières-là et travailler ensemble.
Solal, vous êtes en pleine levée de fonds. Elle est en train d'être bouclée.
En finalisation
de levée de fonds. Et vous cherchez à recruter aussi.
Oui, exactement.
C'est formidable.
Surtout la partie tech, justement, pour accompagner sur l'identification des besoins, etc. Donc, pour ceux qui veulent postuler, c'est bivbeev.co.
Ça s'appelle BIV. Merci à vous, Solal Botbol, d'être venu dans La France Bouge.
Et là, on a du job chez BIV. Et dans un instant, on va aussi voir qu'on a 1000 postes pour vous. On va aussi en avoir, je crois, du côté de chez Michelin. Donc, il faut vraiment rester avec nous. Mais si d'ici là, vous voulez vous aussi présenter votre projet d'entreprise, je vous donne l'adresse mail, même si j'espère que vous commencez à la connaître. e1-lafrancebouge@europe1.fr. Mais comme on n'a pas su faire simple, il vaut mieux la rappeler souvent. Vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates et de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain.
Suite et fin de votre émission, Florent Ménégaud, vous êtes le président du groupe Michelin. Vous restez avec nous encore quelques minutes?
Oui.
Europe 1, 13h, 14h.
On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique.
Aujourd'hui, on recherche énormément de talents.
On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers.
La totalité de nos magasins recrute.
C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir.
On recrute sur tous les métiers de base de la boulangerie, pâtisserie, tous les métiers de vente.
On n'arrive pas à trouver des vendeuses, on va être obligé de fermer des boutiques.
Soyez bienvenus et venez à la rencontre d'une belle boîte dans laquelle on se sent bien.
La France bouge.
Elisabeth Assay. Yag, Emmanuel Duteil.
Et tous ces témoignages sont vrais.
C'est vrai qu'on le dit à chaque fois.
Mais on n'en revient pas tellement.
J'écoute comme un auditeur à chaque fois et j'oublie que c'est à nous derrière. La France bouge, dernière partie de votre émission avec Florent Ménégaud, le président du groupe Michelin.
Et dans La France bouge, on vous accompagne, on vous aide à trouver un emploi, vous le savez. En ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on aide aussi les entrepreneurs à trouver les bons candidats. Bonjour, Maxime Ayache.
Bonjour.
Vous êtes le président de Shiva. Shiva, c'est l'entreprise de services d'entretien de la maison et du domicile qui existe depuis 20 ans. Vous avez 300 agences en France, 60 000 clients, près de 11 000 salariés. Si vous êtes en direct dans La France bouge, c'est parce que vous aussi, vous recherchez de la main-d'œuvre, vous cherchez à recruter. Et là, aujourd'hui, 1000 postes à pourvoir chez vous.
Alors, effectivement, nous avons besoin. Alors, je suis également le président du groupe Academia, donc des activités d'éducation dans les entreprises sœurs, et nous recherchons donc soit l'enseigne Shiva pour les personnels de maison, environ 1000 personnes actuellement, donc 1000 personnes qui sont les bienvenues pour travailler dans nos effectifs, dans des activités qui sont où elles sont bien payées, bien accompagnées, bien rémunérées, et à l'issue d'une formation peuvent travailler chez nos clients.
Alors donc, soyons concrets, parce que c'est un point important que vous dites,
oui, bien
rémunérées, parce que dans ce secteur, on sait que c'est bien évidemment pas toujours le cas, et qu'il y a un vrai problème d'attractivité du service à la personne. Ça veut dire quoi?
Tout à fait.
Bien payé chez Shiva?
Alors, bien payé chez Siva, ça veut dire une rémunération nette, hein, nette de l'heure, entre 12 et 14 euros nette de l'heure.
Mmh. Donc, effectivement, par rapport à la moyenne du marché, on est plutôt sur quelque chose de correct. Et par ailleurs, on sait aussi que dans ce secteur, ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on a du mal à avoir des journées pleines.
Des temps pleins,
beaucoup...
là, ouais, sur
Qu'est-ce
des contrats.
Qu'est-ce que vous proposez là aussi concrètement?
Alors, là-dessus, si vous voulez, les règles, c'est pas nous qui proposons, ce sont nos intervenants avec lesquels nous travaillons qui nous disent ce qu'ils souhaitent avoir. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas avec, en disant, bah, vous allez travailler 10 heures, 20 heures ou 35 heures par semaine. Avec chaque candidat, et c'est la règle dans les services à la personne, on détermine le nombre d'heures de travail souhaitées par nos intervenants, et en fonction du nombre d'heures souhaitées, nous organisons les emplois du temps et les propositions d'intervention.
Donc pour postuler,
c'est véritablement un travail sur mesure qui est proposé à chacun et à chacune des personnes qui travaillent avec nous.
Donc pour postuler, c'est shiva.fr. Merci à vous, Maxime Ayache. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Shiva. Vous recherchez 1000 personnes. Florent Ménégo, vous êtes le président du groupe Michelin. Chez Michelin aussi, on recrute en ce moment.
Oui, tout à fait. En fait, on n'a jamais cessé de recruter. Et cette année, on recrute aussi dans l'Est de la France. Par exemple, dans l'Ouest de la France, nous recrutons.
Alors, vous recrutez et vous cherchez notamment des femmes. Parce que, alors, je vais vous le dire très franchement, j'ai trouvé l'objectif pas du tout ambitieux. Vous dites que vous vous engagez à porter le taux de féminisation de l'encadrement d'ici à 2030 à 35%. Mais c'est quand même sacrément faible, ça.
Et, oui, c'est vrai. Et en fait, on a du mal à... En tant qu'industriel, à attirer des femmes dans notre industrie.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que vous allez mettre une politique en place là-dessus?
On a une politique très agressive en la matière. J'ai féminisé tout le comité exécutif, presque la moitié du comité exécutif. Notre conseil de surveillance a une présidente. Et nous avons plus de la moitié des membres du conseil qui sont féminins. On commence par le haut. Et après, derrière, on a du mal à attirer...
Les managers.
Des managers et des personnes dans le métier de l'industrie. Mmh. Dans nos usines, on a du mal à trouver des personnes qui nous rejoignent.
Donc là aussi, problème d'attractivité. Il faut que les femmes vous rejoignent.
On travaille sur la formation, on travaille sur l'information, sur la démystification de ce que c'est que l'industrie. Mmh. Et pour montrer que c'est parfaitement compatible avec un emploi féminin.
Donc vous recherchez aussi des femmes chez Michelin. Merci à vous Florent Ménégo d'être venu dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Michelin. Et vous nous l'avez dit, hein, le pneu increvable, c'est d'ici 2025. Merci à vous.
Et demain, on va vous raconter une super histoire d'entreprise comme ça arrive rapidement. Vous connaissez la pataterie Florent Ménégo, la chaîne de restaurants?
Non, mais...
Et ce patron, il lui est arrivé une histoire extraordinaire. Un Américain est venu manger des patates chez lui. Il est rentré aux US et grosso modo, il avait l'impression d'être allé dans un triple étoilé. Il l'a dit sur des réseaux sociaux en disant « J'ai eu une expérience de vie géniale ». Et depuis, c'est une success story du côté de la pataterie. Et son patron nous a réservé l'une de ses premières prises de parole en longueur. Ce sera bien évidemment demain à La France Bouge.
Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.